Bonjour, bonsoir, c'est Manu Minel et je suis très heureux de vous présenter ce premier épisode de Radio Cassette saison 2. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. On replonge à corps perdu au cœur de cette décennie pas comme les autres, où MTV, le Hit Machine et la bande FM régnaient en maître. Aujourd'hui, on va vous parler de guitares distordues, de chemises à carreaux, de jeans crado et de cheveux gras. On vous parle évidemment de Nirvana et de leur deuxième album, Nevermind, sorti en 1991 à la rentrée des classes. C'est le plus grand succès du rock alternatif, c'est un des disques les plus vendus au monde et il aura marqué au fer rouge les 90s. On l'a réécouté pour vous et on en parle tout de suite maintenant avec la crème de la crème, Fanny Gignès.
Hello, 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 hello.
Grégoire Sauvage.
Salut tout le monde.
Et Greg Cook de Culture 2000 et 2 heures de perdu.
Salut, I'm back. Je suis revenu, mais vous parliez de Nirvana, je pouvais pas laisser passer normal.
Merci Greg, il nous fait encore une fois l'immense honneur de sa présence. Applaudissements s'il vous plaît.
Oh, Michel Drucker.
Bravo. Bravo.
Formidable.
Formidable. Formidable.
Il le fait super bien.
Tu te rappelles Greg, tu te rappelles Greg, tu nous avais carrément reçu chez toi il y a quelques mois pour l'épisode de Dangerous de Michael Jackson. Cette fois nous sommes chez Fanny au milieu d'un vrai cabinet de curiosité. Alors il y a des papillons, il y a des crânes, il y a des serpents, il y a des crucifix, voilà, il y a tout un bestiaire.
Oui. Excuse-moi Fanny, c'est pas un papillon de lumière que je vois là-bas?
C'est des projecteurs.
Oui, exactement.
Bon, un jour promis, on vous fera gagner des places pour une petite visite, ça vaut vraiment le détour. Alors, on y va pour Nevermind. Si vous ne vous en souvenez pas, ça ressemblait à ça.
So high, strapped in.
Tiens, prends ça, voilà.
Oh là,
c'est bon. Dans tes dents.
Je suis déjà épuisé, j'ai chanté sur tous les morceaux, je me suis secoué, c'était... Waouh, je suis crevé.
Ah ouais, ouais, là on a tout donné, là. On vous a pas fait la version karaoké, mais tout le monde autour de la table était chaud.
On connaissait tout.
On vient d'écouter dans l'ordre les 12 titres de Nevermind et même les 13 titres parce qu'en fait il y a une piste cachée.
Le morceau caché à la fin.
L'album sort le 24 septembre 1991 en vinyle, cassette et compact disque sur le label indépendant qui s'appelle DGC Records pour Davin Geffen Company et qui, pour la petite histoire, a depuis été racheté et appartient maintenant à Universal.
Oui, bah comme tout le monde. Hein, quoi.
Alors, on va faire un petit tour de table. Quel souvenir ça vous évoque? On commence par toi, Greg Cook.
Ouais, bah si tu veux, bah, en fait, moi ça m'évoque plein de souvenirs. Ça me renvoie vraiment au collège, au début du collège. Je crois que c'est une de mes grandes sœurs qui m'avait filé une copie. Je pense que c'était en 95. Kurt était déjà mort. Et forcément, c'était une grosse claque. Hein. Bon, bah, y avait un peu de violence, des guitares. Moi, j'ai adhéré direct. Enfin, c'est pas très original, hein, comme tous les ados de l'époque, hein, comme pas mal autour de cette table et de ceux qui écoutent aussi, je pense. Rien d'original. Mais pourtant, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est un petit peu à cet âge-là que tu adhères à une musique comme ça. Et finalement, ça change un petit peu ta vie, surtout qu'à l'époque, il fallait un petit peu choisir entre le clan du rap français et le clan du grunge. Ouais, et bah moi, j'étais plutôt dans le clan des grunge.
C'était un bras de vrai, quoi.
Ouais. Il y avait, ça permettait aussi de se démarquer des grands frères. Moi, j'avais pas de grands frères, mais on voyait les grands au collège, c'est qu'il y avait des blousons en jean avec Iron Maiden et Metallica. Moi, cela me faisait flipper. et du coup,
j'avais déjà 40 ans dans la tête. En fait.
Non, mais je pense. Et moi, j'écoutais ni Iron Maiden, ni Metallica, ni les trucs, tu vois, tous ces vieux trucs. Mais par contre, quand j'ai découvert Nirvana, je suis devenu méga fan. J'avais quasiment tous les albums. Et puis à 13-14 ans, très très vite, je me suis laissé pousser les cheveux. Premier morceau que j'ai appris à la guitare, évidemment, c'était comme As You Are. Et puis après, j'ai joué dans des groupes de grunge et tout. Enfin, et c'est le premier album. Tu sais, où pour moi, hein, ça me touche vraiment. Ça paraît ridicule aujourd'hui, mais. Tu vois, c'était la première musique que j'ai revendiquée. Je me suis dit, ouais, moi, j'écoute ça. Je m'affirmais avec cette musique.
Ça te représentait, quoi.
Ouais, ouais. Bah, c'est la première fois. Enfin, c'est pas original du tout.
Hein. Avec Céline Dion.
Oui, c'est ça.
Tu faisais partie d'un mouvement, quoi, hein, vrai.
Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que c'est. Pour la plupart des mômes qui écoutaient ça, ça faisait cet effet-là. Donc, c'est un peu rigolo de le dire. Mais moi, ça m'avait fait cet effet-là. Donc, c'est vraiment mon enfance, quoi.
Ouais, moi, okay. Pareil, hein, j'étais ultra fan. Je pense que même moi, j'ai commencé à... Je veux pas me la péter, hein, mais j'ai commencé à écouter Nirvana.
6 mois avant toi.
Primaire.
En 90, c'était déjà Nevermind.
Si, au primaire. Mais après, j'avais un grand frère, tu vois. J'avais un grand frère, donc forcément, voilà, ses goûts, parfois, déteignaient sur moi, forcément. Et je me rappelle de moi, vraiment, j'ai un souvenir où j'étais habillé tout en jean, troué, tu vois, en primaire, quoi. Tu vois, c'est aujourd'hui, je me dis, putain, mais c'est quand même ouf que mes parents me laissaient me prendre.
On a fait le même collège sur
Nevermind et j'étais ultra fan, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment obsédé par l'album. Je commençais la guitare en plus. Donc, en plus, je commençais des cours de guitare classique. Alors, c'était un peu chiant, tu vois. Mais moi, j'avais envie de jouer des accords. J'avais envie de jouer Smell Like Teen Spirit et tout. Mais rock'n'roll à mort.
Et ton prof voulait pas te l'apprendre?
Bah non, c'était pas trop l'idée, quoi.
Tu lui as cassé la guitare sur la tête. Tiens, prends ça.
Pour moi aussi, c'est vraiment la BO de ces années-là et des années suivantes aussi. À l'adolescence, j'ai continué à écouter, les premières écoutes, finalement, c'était hyper tôt, quoi. C'était 9-10 ans, quoi. Ouais, truc de fou.
Et toi, Fanny, alors c'était quand?
Moi, bizarrement, je me rappelle assez clairement l'annonce de la mort de Kurt Cobain en 94, mais j'étais très petite à l'époque et évidemment, j'écoutais pas ça. Mais je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Ce souvenir. Et par contre, Nirvana, j'y suis venue un peu plus tard, je pense à 18 ans, j'étais, enfin 17-18 ans, et j'étais en première, et c'est marrant parce que c'est un peu un souvenir comme toi, Greg, où en fait il y avait deux clans, c'était soit écouter du rap R&B, soit écouter du rock, et moi, clairement, toute mon adolescence, c'était team rap R&B, et en première...
Et t'en as eu marre?
J'ai une amie qui s'appelle Julie qui nous écoute, et à qui je passe le bonjour, et que, du coup, elle, c'était une des rares de la classe à écouter du rock et elle m'a fait découvrir Nirvana. Et je me rappelle des séances chez elle où on était censé travailler sur un TPE et en fait, je venais de m'acheter une guitare et je jouais comme As You Are au lieu de faire mon TPE, quoi.
Bah comme tout le monde, c'est-à-dire que là on est déjà trois à avoir commencé la guitare avec Comme As You Are. Est-ce que toi, Manu, t'as commencé la guitare avec Comme As You Are?
Je pense que c'est peut-être 95% des guitaristes de notre génération.
La première chose que j'ai fait sur la guitare,
c'est Smell Like Teen Spirit. On te l'a demandé tout tout le temps, de toute façon. Tu sais jouer Smells Like Teen Spirit?
Évidemment.
Si c'est pas ça, on demande No Woman No Cry. Les deux basiques.
Et moi, j'étais plutôt sur Smells Like Teen Spirit que No Woman No Cry. Ça me saoulait quand on me demandait ça. Putain, ça me saoulait.
Mais du coup, Manu, t'as joué de la guitare sur Nevermind ou pas?
Bah non, jamais. Non, non, moi, j'ai pas eu de guitare. Moi, Grégoire jouait de la guitare à l'époque et je trouvais ça génial et j'étais loin de son niveau, donc ça m'a tout de suite foutu les jetons. J'ai essayé de fouiller dans mes souvenirs. Moi, je me souviens de ma première petite copine en quatrième. Voilà, c'était la bande son de ces années-là.
Tout ça pour placer qu'il avait des meufs. Ah, que... enfin, je sais plus si c'était en sixième ou en quatrième.
Parce que j'étais assez précoce.
En primaire, je crois. Non, non, c'était. Je suis désolé, j'arrive pas à voir.
Je t'ai jamais vu avec une meuf avant. Il y a quoi? Il y a 3 ans, Manu, non?
Manu, continue, on est avec toi.
Non, j'ai plus envie.
Allez, vas-y, raconte. Raconte.
Bon voilà, c'était en quatrième et pour moi c'était cette musique surpuissante où t'as l'impression d'être en confiance, où t'as tout qui peut et tout qui est possible quand t'écoutes Smells Like Teen Spirit. Putain, t'as ton cœur qui fait des bonds, c'est incroyable. Et pour moi c'est vraiment les sentiments de l'adolescence où t'es à balle surtout quoi. J'arrive pas trop à marquer un jour où j'ai entendu ce morceau pour la première fois. Difficile, mais en tout cas voilà, il y a eu ce morceau assez fondateur. Puis après j'ai un peu lâché Nirvana.
Normal, moi je pense que je l'ai saigné et après je l'ai pas écouté pendant 15 ans et ça fait pas longtemps que je l'ai remis. Je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Nevermind. C'était pas pour l'émission, je l'ai réécouté il y a pas longtemps et je me suis dit putain, en fait il est super bien cet album. Et là je l'ai réécouté, je l'ai encore réécouté et c'est toujours bien.
Moi c'est un album, pas un album mais Nirvana, j'y suis revenu il y a peut-être 4-5 ans. Et depuis, j'écoute encore tout le temps.
C'est vrai.
C'est Nirvana Forever.
C'est génial.
Petit cœur de Kurt Cobain.
Non, mais, et là, bosser sur cette émission, c'était même pas genre je me replonce dans un disque que j'ai pas entendu.
Non, pas de soucis, je le connais par cœur.
Bien sûr, j'ai écouté hier, tout va bien.
Incroyable. Alors que, moi, ça faisait des années que je l'avais pas écouté. Ouais, c'était un gros plaisir, quoi. Du coup, un gros, gros kiff, un gros bonbon à sucer. C'était vraiment hyper cool. Oui, un petit peu tendancieux, désolé. Et j'ai adoré réécouter l'album. Après, ça reste, c'est pas mon préféré de Nirvana. Pour moi, ça reste une itero. Ouais, je fais toujours que je mette un petit. Je suis un peu le.
Puis brancher Steve Albini.
Je suis toujours le mec. Je suis un peu le blasé. Mais ouais, in utero, ça reste quand même pour moi un sommet grunge. Je trouve que Nevermind, on en reparlera sur le son de Nevermind, qui fait beaucoup parler. Ça reste un peu trop propre pour Nirvana, mais évidemment, c'est super, c'est hyper bien produit. Les chansons sont mélodiques, c'est puissant.
C'est trop bien.
C'est trop bien.
Toi, tu l'écoutes encore, Manu ?
Alors, justement, moi, ça m'a fait super plaisir parce que c'est un album que j'avais vraiment foutu aux oubliettes pendant très, 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 très longtemps. Et en fait, je n'aimais pas Nirvana parce que tout le monde aimait Nirvana, en fait. Et c'était un peu le méga classique du rock en fait, que t'en peux plus d'écouter, c'est une espèce de caricature. C'est le mec en fait qui
je pense qu'au bout d'un moment
tous les clichés quoi, c'est Kurt Cobain, il suicide, il est mort, il est en pleine gloire, il a inventé un rock super grunge,
et puis quand tu découvres d'autres groupes de rock à ce moment là au bout d'un moment Nirvana ça devient un peu le mainstream quoi. Au bout d'un moment t'es un peu là genre non mais ça va, c'est bon, moi j'écoute Sonic Youth, j'écoute les Pixies, tu vois, au bout d'un moment Nirvana ça devenait le truc. Non mais je parle à l'époque quoi, au bout d'un moment ça devenait le truc tellement évident.
C'était le truc dans lequel tu rentrais dans le rock, donc au bout d'un moment t'étais obligé de le rejeter parce que plus pointu.
J'imagine
quoi.
Qu'on écoutait t'écoutais d'autres types de musique après assez rapidement et que au bout d'un moment t'as envie d'autre chose parce que c'est trop évident. Et surtout comme tu dis Manu, tout le monde connaissait Nevermind et Nirvana, même les gens qui ne connaissaient rien au rock, et donc au bout d'un moment c'était énervant quoi.
Moi j'avais envie de me distinguer en tout cas. Je crois que j'avais jamais entendu Nevermind en fait du début à la fin, enfin même c'est sûr, je vous le dis, et ça m'a fait super plaisir de le réécouter. J'ai pris une énorme claque quoi, il y a des morceaux, c'était la première fois je crois que je les ai enregistrés, que je les écoutais. Putain, la claque quoi, là franchement j'ai surkiffé quoi. Et c'est marrant, t'as des albums comme ça que t'as détesté petit, que maintenant tu te mets à redécouvrir, c'est en plein dedans quoi.
Oui, tu le détestais par principe, comme on a détesté plein d'albums d'un autre style quand on écoutait Nirvana et par principe, mais qui sont aussi très très bons.
Ouais, donc je suis super content, j'ai une oreille hyper neuve du coup sur cet album. Alors on va se pencher un petit peu dessus, on va reparler un petit peu de la folle histoire de Nevermind, parce que au départ le label prévoyait certes un succès, mais un succès dans un cercle un peu fermé qui est celui du rock alternative, et puis finalement il va devenir un des albums les plus vendus et les plus acclamés de tous les temps quoi. Alors Greg Sauvage, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment Kurt Cobain est devenu le héros de toute cette génération ?
Alors, il faut bien comprendre en fait qu'à la sortie de Nevermind, à la fin du mois de septembre 1991, Nirvana, c'est qu'un groupe assez modeste de rock alternatif de la scène de Seattle. Ils ont eu un certain succès d'estime, surtout avec Bleach, leur premier album. 40 000 exemplaires quand même vendus en Amérique du Nord et qui a aussi plutôt bien marché en Grande-Bretagne. Mais clairement, avec Nevermind, ce n'est pas le grand public qui est visé. En témoignent les ambitions de la maison de disques qui table sur 250 000 exemplaires. Le chiffre en fait atteint par l'album Goo de Sonic Youth, sorti l'année précédente. Alors Nevermind fait son entrée dans le Billboard en octobre à la 144e place. Commence alors une ascension fulgurante dans les charts américains, notamment grâce au clip de Smell Like Teen Spirit qui passe littéralement en boucle sur MTV et devient le tube de cette rentrée musicale. La semaine du 9 novembre, l'album passe de la 35e à la 17e place. Mais s'il y a une date à retenir, c'est celle du 11 janvier 1992.
Bah, c'est ma date de naissance.
Vous savez pourquoi ?
Faux. Mais non. C'était 10 ans avant, Fanny.
11 janvier 1992, vous savez pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Nirvana détrône le roi de la pop.
Ah oui ?
Détrône le Dangerous de Michael Jackson. Un petit clin d'œil d'ailleurs à l'un de nos épisodes précédents.
Ça alors !
Détrône Michael Jackson de la première place du Billboard. Il se vend alors 300 000 exemplaires de Nevermind par semaine. Et en 20 ans, le disque s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires.
Voilà.
Côté concert, Nirvana va entamer une grande tournée nord-américaine. Il y a un concert assez mythique qui est un concert au Paramount Theater de Seattle. Et d'ailleurs, on peut le voir en DVD dans une réédition de Nevermind.
On ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'ils viennent de la côte nord-ouest des États-Unis qui, à cette époque-là, fait naître tout le grunge. Et justement, je crois qu'ils avaient aussi le triste record du plus grand nombre de suicides aux États-Unis.
Seattle a le climat c'est vraiment du brouillard parce qu'il y a l'Atlantique et tout, effectivement c'est pas la joie de vivre Seattle, c'est clair, il fait super froid. Et alors le premier concert en France post-Nevermind, ce sera en juillet 1992 et ça se passe au Transmusical de Rennes. On écoute tout de suite un extrait, c'est Smell Like Teen Spirit.
Il y avait bu un peu de chouchane ce soir-là.
Il y a cette petite fausse note à l'entrée du refrain qui est assez
légère.
Cool,
légère.
Ça, ouais, c'est le chouchane touch. Quoi.
voilà, un concert qui est resté assez mythique. Et avec Nevermind, on t'en a parlé un petit peu dans l'intro, Manu, mais c'est une révolution culturelle qui est aussi en marche, celle qui allait permettre à des millions de jeunes, comme moi, de porter des vêtements sales et troués tout en restant cool.
Et en tout cas, c'était sale, c'est tout.
Mais en tout cas, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce succès est quand même assez inattendu. Et il laisse surtout les membres de Nirvana incrédules, très surpris et un peu gênés aux entournures de se retrouver de manière aussi brutale sous le feu des projecteurs. Et c'est un peu l'un des paradoxes de Nevermind que j'ai envie de souligner. C'est-à-dire un album qui a révélé au monde entier la scène grunge de Seattle, qui a été la bande-son de cette génération X, cette génération No Future, qui a du mal à prendre sa place sur le marché du travail, dans des sociétés débarrassées des grandes idéologies. C'est la fin du communisme, le crépuscule du capitalisme. Et en même temps, malgré l'importance de ce disque dans l'histoire de la musique, c'est un album maudit, en particulier pour Kurt Cobain, qui ne s'est jamais vraiment remis de la surexposition médiatique qui a suivi la sortie du disque. On sait qu'il aimait pas beaucoup Nevermind, il l'a dit et redit à longueur d'interview. Exemple dans Come As You Are, The Story of Nirvana, écrit par le journaliste Michael Azerrad en 1993. Je cite Kurt Cobain. Maintenant que j'ai du recul sur la production de Nevermind, je me sens terriblement mal à l'aise. Ça ressemble plus à un disque de Motley Crue qu'à un disque de punk rock. Alors, Motley Crue, je le rappelle, c'est un groupe de glam rock qui devait déjà être un gars en 1993. Donc, dans la bouche de Kurt Cobain, c'est pas vraiment un compliment.
Ouais, mais
voilà.
c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi complète.
Ouais.
Parce que Kurt Cobain, à bout de temps, arrêtait pas de dire une chose et son contraire.
Ouais.
Et il a tout fait pour avoir le disque le plus commercial possible. Il voulait absolument devenir une superstar du top 40. Et moi, pour le coup, j'ai écouté des interviews où il qualifie pas du tout la musique de Nirvana de punk rock, mais il appelle ça de la pop. Et moi, je suis hallucinée dans la bouche de Kurt Cobain de dire ouais, on a fait un album de pop et tout.
Parce qu'à la fois, il défendait ce côté super intègre et en même temps, genre,
mais
l'histoire nous vend, on s'est fait bouffer par la maison
de
disques. Mais effectivement, les morceaux, au final, même si l'album avait été produit différemment, ça reste des morceaux hyper mélodiques.
Ça, c'est vrai.
Je sais pas ce que t'en penses, Greg, ça reste un album hyper mélodique, quoi.
C'est-à-dire que c'est vrai que la force de cet album, et il le dit lui-même, c'est les mélodies, surtout sur les mélodies, les paroles, elles sont un peu derrière. Et finalement, il met des grosses guitares pour essayer de cacher le fait qu'il est fan de John Lennon et que ce qu'il fait avant tout, c'est des mélodies. Quoi. Mais après, je suis d'accord avec toi, Fanny, mais je suis d'accord avec toi aussi, Greg. Je suis d'accord avec tout le monde.
C'est cool, Greg, t'es hyper. On est cool, les mecs. Moi, je suis d'accord.
C'est qu'il dit vraiment tout, et au contraire, il dit quand l'album sort, il dit putain, c'est ça que j'ai fait. Quand il l'écoute la première fois, ils font putain, c'est vraiment génial ce qu'on a fait. Et puis à partir du moment où il en a vendu 10 millions, il fait. C'est de la merde. Bah forcément, il en a vendu 10 millions, c'est un grade, tu peux pas dire qu'il est trop bien, quoi. Tu vois, donc, mais il dit un peu tout et son contraire, ça c'est vrai.
Donc voilà, il y a ce côté Nevermind, révolution, tout autant que malédiction pour Nirvana, qui n'avait pas prévu de devenir cet objet d'adoration, voire de consommation à travers le monde. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas s'imaginer que Nevermind, même si là, on fait un peu de la psychologie de comptoir, n'ait hein, pas pu avoir un effet ou un lien avec la descente aux enfers de Kurt Cobain, quoi.
Avec l'héroïne, ouais.
Ouais, l'héroïne a dû jouer aussi.
Un tout petit peu.
C'est une histoire de fou. Moi, quand j'ai écouté cet album, moi, ce qui me frappe, c'est à chaque fois, c'est la puissance du son, quoi. Mm. C'est les distos, la manière dont c'est foutu. Il y a des guitares saturées, il y a la batterie sauvage, il y a des mélodies imparables. Dès les premières mesures de Smell Like Teen Spirit, en fait, t'as cette puissance, t'as ton cœur qui s'emballe. Je te jure, on a l'impression qu'on va tout péter. Alors du coup, je tourne vers toi, Greg Cook. Comment ça s'est passé en studio? Comment ils ont fait pour enregistrer Nevermind?
Alors, je vais vous raconter une très belle histoire. C'est l'histoire de Nevermind. Alors, c'est le deuxième album du groupe. Oui, il était une fois Nevermind. Alors c'est le deuxième album, on sait qu'ils ont fait Bleach avant. Bleach, ça avait été enregistré en 30 heures, c'est-à-dire que c'est assez rapide, 30 heures, et pour un budget de $600. Là pour Nevermind, on va avoir $65,000, ce qui change un petit peu la donne.
C'est pas très cher, $600 pour 35 heures de studio quand
non,
même.
Non, mais ils étaient dans un coin paumé et ils autoproduisaient leur album, qu'ils allaient dans un studio avec un mec qui faisait des prix pas chers pour les petits groupes locaux.
Bon, à l'époque, le dollar valait moins cher aussi.
Absolument. Donc en attendant, Bleach sort chez Sub Pop et donc pour leur deuxième album, ils disent les gars de Sub Pop disent à Nirvana, bon les gars, je vous conseille un gars, il s'appelle Butch Vig et ça sera votre réalisateur. Alors faut pas confondre, on dit producteur, réalisateur, producteur en anglais, c'est justement le réalisateur, producteur en français, c'est celui qui met le pognon. Donc le réalisateur, c'est vraiment le mec qui met la main à la pâte et qui dit ah non, ça sonne pas bien, on va faire ça comme ça, tu refais cette prise là. Donc là, on a Butch Vig qui est ingénieur du son et réalisateur pour ce deuxième album. Butch Vig, il n'est pas super connu à cette époque-là, mais après Nevermind, il va bien faire ses armes, c'est-à-dire qu'il va faire les Smashing Pumpkins, Muse, Green Day, les Foo Fighters, évidemment, et c'est aussi le batteur.
Tous ceux qui veulent copier Nirvana.
Voilà.
Grave, bah, tout le grunge, quoi.
Ouais, tout le grunge, et même plus. Hein. Blink, c'est même plus.
Ah ouais, Blink 182 aussi,
crois
sérieux.
Je crois qu'il fait Blink à un moment, et c'est aussi le batteur de Garbage, je ne sais pas si vous vous rappelez de Garbage.
Ah bah ouais.
Donc c'est pas...
Gros album. Je me souviens de Garbage 2.0.
Ouais.
Énorme
Stupid
album.
Girl et tout. Non, c'était
ouais,
vachement
bien. Sûr.
Mais c'est vrai qu'il y a déjà ce son, Butch Vig, donc ce son Nevermind, en fait. Et on va comprendre pourquoi. L'enregistrement se fait d'abord au Smart Studio. Le Smart Studio, c'est le studio de Butch Vig. Et ça commence le 2 avril 1990. Je vous dis Smart Studio, c'est un mot-clé, retenez-le bien. Je vous dirai après pourquoi. Comme d'habitude, Kurt, bah, il s'en fout un petit peu, il finit pas les paroles. Finalement, il travaille beaucoup. Et au cinquième jour, il est en train de faire Lithium. Et bam, il se pète la voix. Du coup, fin de session. Et ils finissent même pas l'album. C'est-à-dire que... il va se passer pas mal de choses et ils vont avoir quelques embrouilles. Quelques embrouilles, qu'est-ce que c'est? Déjà, première embrouille, c'est qu'ils s'embrouillent avec le batteur. Le batteur, c'était Chad Channing qui avait fait Bleach et qui avait fait la tournée de Bleach, donc c'est quand même pas rien. Et finalement, Kurt n'aime plus trop son jeu. Et du coup, je vous passe les détails, mais ils vont en chercher un autre qui sera
Dave Grohl.
Merci. Alors, ils ont fait une petite...
Mais quand même, Chad Channing est quand même crédité sur l'album 20 ans après, mais voilà, il joue juste quelques cymbales sur Polly, quoi.
Exactement, c'est exactement. Je vois qu'il est calé, le gars.
Il y a vraiment un débat de connaisseurs ce soir, putain,
il
bravo.
Il est calé.
On a réuni une Dream Team, quoi.
C'est vrai. Donc, ils ont fait leur petite maquette au studio Smart de Budgevic. Donc, du coup, ils ont une maquette entre les mains et ils se disent, bon, bah, on va chercher notre maison de disque. Mais pourquoi est-ce qu'ils se disent ça? Parce que, bah, Sub Pop, un, ils ont un petit peu des problèmes de thunes, et deux, bah, ils s'en foutent un peu de Nirvana, ils sont pas spécialement au fait de ce qu'ils font. Du coup, en fait, ils démarchent et ils envoient cette petite maquette, et il y en a un qui se pointe, tu l'as cité tout à l'heure, Manu, c'est David Geffen, et David Geffen, je sais pas si c'est personnellement, mais ils disent, bon, ok les gars, on va finir l'album, mais vous allez pas avec le cutéreux là de Budgevic, on en a rien à foutre de ce gars là vous allez avec quelqu'un d'autre, et ce gars là on vous l'impose. Et là Nirvana dit, non, j'en ai rien à foutre, on a fait la maquette avec Budgevic, du coup on va finir cet album avec Budgevic. Il est patient, on l'aime bien, on sait travailler avec lui. Du coup...
Avec qui ? Budgevic ?
Ouais. Du coup, deuxième session. Et là, cette fois-ci, c'est à Sound City, à Los Angeles. Et c'est quasiment un an après cette maquette, qui n'était pas censée être une maquette. Mais on est du 2 au 9 mai 91. Et avec qui ? Avec Budgevic, évidemment.
Alors maintenant, tu vas faire cette chronique sans dire Budgevic.
Ok, je vais essayer. Il garde quasiment rien de la première session, Greg, tu l'as dit, sauf Polly. Police est la seule chanson qu'ils gardent et ils refont tout. Alors entre-temps, pendant cette année, ils ont quand même composé quelques morceaux. Ils ont composé Smell Like Teen Spirit, peu de temps avant de rentrer en studio, enfin pour le deuxième studio. Et Comme As You Are, le morceau qui a permis à de jeunes garçons de jouer de la guitare.
le deuxième single.
Alors comment ça se passe? Ça se fait assez rapidement, cet album, parce que finalement... c'est pas forcément l'image qu'on a, mais Nirvana c'est un groupe très sérieux,
c'est ça, qui travaille beaucoup. Ils ont beaucoup bossé. Ouais.
Donc sauf là, Kurt qui arrive en studio en général en n'ayant pas écrit ses paroles et qui improvise plus ou moins et qui change les paroles 10 fois en cours.
C'est vrai. Mais par contre, ils jouent, et ils sont en place. Et finalement, ça va très très vite. Surtout pour le basse batterie. En général, ils jouent en live et ils font quelques reprises dessus une fois qu'ils ont une bonne base. Kurt, lui, met plus de temps. On l'a dit pour finir les paroles. C'est vrai qu'il est surtout focus sur les mélodies. Et c'est vrai que c'est un album qui est très très mélodique. Et donc, il y a certains morceaux comme Territorial Pissings qui se font en une seule prise, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués, comme Something in the Way, qu'on a entendu dans l'intro d'ailleurs, comme les autres, qui est un morceau beaucoup plus lent, et Kurt est dans la cabine, il essaye, et ça marche pas. Et au bout d'un moment, il retourne dans le control room. Control room, c'est là où il y a notre ami l'ingénieur du son, René.
Je ne prononce pas le nom.
Et il se met dans le, voilà, il se met dans le canap, il dit non, mais laisse tomber, je vais pas y arriver. Tu sais comment il faut que ça joue ce truc-là? Et il s'étale dans le canap, et il dit, il faut que ça joue comme ça, vraiment tout lentement. Et là, je dis, oh merde, je l'ai dit.
à moitié.
Ne bouge pas. Hop, il ramène des micros. L'autre, il est dans le canapé et il joue tout doucement. Et il susurre et il va choper ce moment-là, le moment qui était le plus dur à choper, parce que c'est vrai que c'est un morceau qui est beaucoup plus lent. La batterie est beaucoup plus lente aussi. Qui se fera après, il va toujours dire à Dave, vas-y, joue plus lentement. Voilà, donc ça, c'est les petites anecdotes de tournage. Et pour cette deuxième session, Something in the West, c'est un des derniers morceaux qu'ils enregistrent, mais le premier, ça sera In Bloom. In Bloom, pourquoi? Parce qu'ils le connaissent déjà, ils l'ont déjà enregistré, et le morceau a pas trop bougé. Et alors, pour votre plus grand plaisir, à Radio Cassette, on a réussi à mettre la main sur les multipistes.
Yes.
Et ça va nous aider à comprendre un petit peu le son de cet album. Du coup, on va s'écouter un petit bout de morceau. On commence par la basse, et moi, il y a un truc qui m'étonne un petit peu, parce que je l'ai écouté attentivement, cette basse, et ça rassure un petit peu tous les musiciens, tous les bassistes, c'est que elle est pas hyper carré. Si jamais on met un métronome, on se rend compte qu'il bouge un petit peu. Moi, ça me rassure. Je me dis qu'il n'est pas parfait, cet homme. Et pourtant, on verra que ça marche bien.
Rien que ça, c'est trop bon, quoi.
C'est la batterie qui arrive. On peut l'écouter en solo, comme ça. C'est vrai qu'il n'est pas hyper carré... Christ. Et finalement, ça marche. Hop. Voilà.
Attends, petit effet, quoi, on kiffe.
Non, le son de batterie, on en a beaucoup parlé du son de batterie de Nirvana. L'ingé son dit... quand on pose la question à l'ingé son, comment est-ce que tu as fait pour avoir ce son-là? Et lui, il dit, bah, c'est surtout d'avoir Dave Grohl qui joue à la batterie qui donne ce son-là et le son de ce fameux studio. Ensuite, deuxième extrait, vous voulez des guitares, évidemment c'est Nirvana, alors ok, on va écouter les guitares. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils en enregistrent plusieurs, qu'ils en mettent à droite, à gauche pour aérer et également alourdir le son. Et on va s'en écouter deux. Alors d'abord la guitare clean, et après on va écouter la guitare droite, la guitare gauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils en enregistrent pas que deux, hein, ils en enregistrent cinq, et avec des sons, avec des distos différentes, et ça fait un bon gros mur du son. Et là, on met les deux. Mais ça marche bien quand même. Hein.
Ah bah ouais. Hein. Bon effet chorus au début, la grosse
ouais,
disto.
Beaucoup de chorus.
Beaucoup de chorus. Ouais.
Qui est très 90
ouais.
en fait.
Très
finalement.
90 ouais. le chorus. Ouais. Ouais.
Tu retrouves ça
c'est la première
sur
guitare,
tous les albums,
c'est
sur Weezer, sur un million d'albums.
Ouais. Ouais. Et on va ensuite aller sur le troisième extrait. Donc c'est les voix. On a envie d'écouter les voix de Kurt. Il faut savoir qu'on utilise la même technique de doublage. Je ne sais pas si on dit doublage, on dit dubbing hein, en anglais. Hein. Donc on va doubler les voix. Et ce qu'il faut savoir, c'est une petite anecdote, c'est que Kurt, il n'aimait pas vraiment doubler les voix. Il a dit non, c'est bon, j'en fais qu'une et tout. Mais qu'il était fan de John Lennon. Et justement, que l'ingé son Butch Vig, maintenant vous le connaissez tous, lui dit non, mais mec.
John Lennon faisait ça.
John Lennon faisait ça.
Alors,
John Lennon.
Toi, tu peux le faire.
Ouais.
Quoi, du coup
doubler les voix.
Ah, okay.
Et une
du
voix
coup,
à droite, une voix à gauche.
Voilà. Du coup, on va s'en coûter. C'est petite voix tout de suite.
He's one who likes all our pretty songs and he likes to sing along.
On entend vraiment le doublage, cette espèce de truc qui tourne. Et après, on va voir Dave Grohl qui va faire les back vocals. Pareil, on le double. Peu de réverb.
Imparable.
Vous pouvez les trouver, hein, ces multipistes, pour s'amuser, pour ceux qui veulent essayer de les mixer. D'ailleurs, quand on parle de mixer, j'essaie de me dépêcher, hein, il faut parler du mixage. C'est-à-dire que justement, après cette session d'enregistrement, ils vont mixer dans le Devonshire. Ça aussi, c'est un mot-clé. J'avais dit un premier mot-clé, c'était Smart Sessions. Et Devonshire, c'est un autre mot-clé. Pourquoi ? Je vous expliquerai après. Bon, visiblement, Kurt est plutôt relou au mixage parce qu'il dit à Butch, ok, vas-y, vire les aigus, je veux que ça sonne comme du Black Sabbath. Et en plus, Kurt, il a envie d'enterrer sa voix, de sous-mixer sa voix, et lui dit vas-y, mets-la moins fort. Et je lui dis non, mais en fait, c'est pas possible. Ta voix, elle est trop bien, comme la batterie, comme la basse.
On peut pas la sous-mixer. Mais il a pas trop d'être le lead singer du groupe.
Alors, ça, je sais pas. Et finalement, il se laisse convaincre. Et finalement, la voix sera un petit peu sortie. Mais à cause de tous ces problèmes avec Butch Vig, vous serez content, je vais plus vous parler de Butch Vig parce qu'on va chercher un autre ingénieur mixeur. Ça sera Andy Wallace. Et Andy Wallace, moi, je me rappelle parce que quand je regardais tous mes albums de rock des années 90, il y avait tout le temps mixé par Andy Wallace. Alors il faut savoir qu'il a fait avant Nevermind, il avait fait Slayer, Season in the Abyss, il avait fait un peu de Sepultura, et après ça il va vraiment faire tout. Il va faire Rage, il va faire Blink, il va faire Korn, il va faire Silverchair, il va faire, je crois qu'il même qu'il fait Jeff Buckley, enfin vraiment il fait tout, il fait beaucoup beaucoup de trucs. Et du coup il va remixer cet album, et ça sera cette version d'Andy Wallace qui sera gardée. Alors pour les plus fans d'entre vous, je vous avais dit mot-clé Devonshire, si vous tapez Devonshire mix, vous pouvez écouter le mix.
J'ai réécouté un petit peu. D'ailleurs, la grosse différence, je crois, c'est vraiment sur les batteries, justement, où il y a moins de reverb.
Ouais.
On est dans un son plus authentique, plus punk.
Absolument,
quoi.
Ouais. Moins
FM.
Plus de guitare.
Ouais, ouais.
Plus de guitare. Et donc, c'est intéressant. Enfin, si vous l'écoutez sec comme ça, l'autre mix, le mix de Butch, vous verrez pas spécialement la différence. Mais quand on compare, on voit vraiment le truc.
Ouais.
Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pour les plus grands fans. Évidemment, moi, j'étais très content de trouver cette session. Et vous pouvez aussi écouter l'autre session, qui est la Smart Session, l'autre mot-clé que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui avait été enregistré au studio de Butch. Et là, franchement, pour le coup, il y a vraiment une grosse différence parce que là, pour le coup, ça fait vraiment, vraiment maquette. Et on voit qu'ils ont bossé un an avant de faire Nevermind parce que le son a vraiment, vraiment évolué. Et même
mais
le jeu.
On va écouter un extrait là ou pas parce que vous avez du teasing de
ouf. Non, non, je vous ai donné les deux mots-clés, vous les écoutez. Donc après, sortie de l'album 24 septembre 91, donc 4 mois après l'enregistrement. Il faut savoir qu'entre les deux sessions de mixage, il s'est passé un an. Là, ils enregistrent en Californie, il se passe 4 mois, hop, ça sort. Et puis, petite anecdote, encore une dernière, au mastering, il y a eu un petit quiproquo et la chanson cachée dont on parlait tout à l'heure, elle apparaît pas. Sur les 20 000 premiers tirages, donc Kurt appelle le mastering, il fait eh, dis donc,
il y a un problème, je crois.
Il y a un problème, là, le truc qui à la fin là, qui était caché, bah, il n'y est pas. Donc finalement, finalement, il rectifie le tir après. En tout cas, moi, c'est un album que je trouve qui a beaucoup moins vieilli que d'autres albums de la même époque. Genre, pour moi, celui qui a le plus vieilli, c'est Pearl Jam 10, qui est noyé dans la réverb, qui me fait mal, enfin qui me fout le cafard. Je vous assure.
Pourtant, je l'écoutais à fond à ce moment-là, mais ouais, c'est sûr qu'il a beaucoup plus vieilli. Ouais.
Et mine de rien, il a mieux. Je trouve que Nevermind a mieux supporté le temps. Voilà.
Ouais.
Ah bah c'est un bon mot. Ah
c'est bien. Ça vous a séché, hein.
Ah ouais. Ah bah difficile de passer après toi et après toutes ces sessions. Merci Greg d'avoir déterré ces enregistrements. Alors il reste un truc dont on n'a pas encore parlé mais qui est devenu iconique. C'est la pochette de Nevermind avec le bébé nageur le plus célèbre du monde. Il est là tranquille, la quéquette à l'air avec un gros billet vert devant les yeux. Ok, c'est génial, mais on comprend pas bien pourquoi. Et mon petit doigt me dit, Fanny, que tu vas nous l'expliquer.
Mais pourquoi ils font ça ? Eh bien, parce que Kurt Cobain l'a décrété. Cette pochette, c'est son idée. Il a vu à la télé au printemps un reportage sur les accouchements dans l'eau. Et il en a parlé à Robert Fischer, le directeur artistique de DGC Records. Et Kurt voulait retrouver des images de bébés extraites de ce documentaire. Mais un accouchement avec le sang, le placenta et tout, bah, c'était forcément trop trash visuellement. Du coup, Fischer est tombé sur le travail du photographe Kirk Weddle, qui est spécialisé dans les prises de vue sous l'eau. Il l'a embauché et Weddle, lui, a demandé à des amis de faire poser leur bébé âgé de 3 mois en échange de $200. La séance
c'est l'exploitation, ça, non?
$200 de l'époque. De l'époque.
Ah, ça va alors, ça va.
En ancien France, ça fait à peu près.
avec l'inflation de Seattle, ça va, ok.
Alors, la séance photo a lieu dans une piscine à Pasadena, en Californie. Ça a duré 15 minutes. Mais il fallait autre chose qu'une simple photo de bébé nageant sous l'eau, n'est-ce pas? Du coup, Kurt a eu l'idée d'ajouter un photomontage, un hameçon au bout d'un fil de pêche pour rendre l'image plus menaçante. Et puis après, quoi mettre au bout de ce hameçon. J'ai trouvé une interview de DA dans laquelle il explique un petit peu les coulisses.
On a passé l'après-midi à réfléchir à tous les trucs marrants qu'on pourrait accrocher au hameçon. On a eu l'idée d'un morceau de viande crue, genre un bon gros steak, ou bien un CD ou quelque chose qui symbolise la musique. On est parti déjeuner et on pensait genre « Oh, et pourquoi pas un burrito ?» Ou « Regarde, un chien, pourquoi pas un chien ?» Ça a continué pendant des heures. Je me rappelle plus qui a parlé du billet d'un dollar, mais tout le monde a pensé que c'était une bonne idée. Donc on s'est mis d'accord là-dessus.
Et là voilà notre image.
Actor Studio.
Un bébé qui nage sous l'eau à la poursuite d'un billet de $1. Et soudain, ce brainstorming absurde devient un symbole anticapitaliste. Bah, pas sûr que Nirvana ait eu ça en tête dès le départ. Mais toujours est-il que cette pochette culte fait aujourd'hui partie de la collection du Museum of Modern Art de New York.
Et ce qui est marrant, c'est que le bébé Spencer Eldon a rejoué la scène de la pochette à 2 reprises.
Oui, j'ai vu ça.
Ouais, il l'a fait en 2001 pour Lingstone.
C'est son moment de gloire, ouais.
Et puis il l'a fait pour son 25e anniversaire en 2016. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir exactement la même prise de vue, mais avec un mec qui fait juste 1m75.
Et qui n'est pas tout nu, c'est dommage.
Ouais.
Et du coup, bah justement, tu disais tout à l'heure, Manu, que sur la pochette, on voit la zigounette du bébé. Ça a évidemment posé problème à la maison de disques qui a essayé de censurer le truc. Kurt a refusé la censure, mais il a proposé une alternative qui était de placer un sticker sur la quéquette pour la cacher. Du coup, sur ce sticker, il voulait écrire un message qui disait
« Si cela vous choque, c'est que vous devez être un pédophile refoulé. »
Putain, le truc. Comme ça, c'est réglé.
Du coup, la maison de disque, elle a fait marche arrière, elle a rien censuré du tout.
Tu sais, des fois, quand tu regardes les trucs de cœur, t'as vraiment l'impression que c'est vrai qu'il est, c'est un peu un ado, quoi, tu vois. Mais,
ouais, c'est un petit.
Tu vois, c'est genre, ouais,
balle,
mais moi, j'ai trop mal au cœur, c'est pour ça que je fais des chansons.
Il est génial.
Bon, mec, vas-y, c'est bon, quoi.
Après, tu te dis, c'est ouf, il était super jeune aussi. Enfin,
c'est vrai.
Voilà,
ouais. C'est vrai.
C'est
vrai, non, c'est vrai.
Il a 7 ans, quoi.
Et c'est aussi un petit génie du marketing, hein, parce que de faire des petits scandales, des trucs comme ça, c'est assez bien vu, quoi.
Et alors, l'autre anecdote marrante, c'est la typo du mot Nevermind qu'on voit sur la pochette. C'est une écriture noire ondulée qui rappelle un petit peu l'ambiance sous-marine. Et Fischer, le DA, toujours lui, a fait imprimer le mot Nevermind sur une feuille qu'il a placée dans une photocopieuse. Et à mesure que la machine scannait, il a bougé la feuille dans un sens, puis il a rescanné, il a bougé la feuille dans l'autre sens pour créer un effet de vague.
Wow,
c'est fait
school,
à la mano, le truc.
Ah ouais.
Et aujourd'hui, avec Photoshop, en deux clics, ça serait plié. Mais bon, à l'époque, obtenir ce genre d'effet, c'était super avant-gardiste. Donc j'ai envie de dire, bien joué, Bobby.
Ouais, franchement,
c'est canon.
Il
hein.
faut penser au truc, il faut avoir envie, il faut mettre les mains dedans. Il y a un truc vachement artisanal là-dedans. C'est, je trouve ça super cool.
Alors, dans le cadre de la sortie de cet album, il n'y a pas que la pochette qui est devenue culte, il y a aussi un clip.
Alors, avec la sortie du single Smells Like Teen Spirit, la jeunesse du monde entier va s'identifier à mort à cet hymne de la révolution adolescente, et le clip va jouer pour beaucoup là-dedans. Il a été tourné en août 91 dans un studio de cinéma à Los Angeles, dans lequel un gymnase de lycée a été reconstitué. On y voit des dizaines de figurants qui jouent les lycéens et des pom-pom girls habillées en noir avec un beau logo anarchiste sur la poitrine. Il y a aussi un homme de ménage qui passe la serpillière, et à la toute fin du clip, on aperçoit le proviseur qui a été ligoté. Le tournage a duré 8 heures, pendant lesquelles Nirvana joue Smells Like Teen Spirit en live, dans les conditions d'un concert. Les lycéens assis dans les gradins qui font office de public sont censés regarder le concert tranquillement, puis de moins en moins tranquillement. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'après des heures à poireauter, c'est parti en cacahuète pour de vrai.
C'est vrai que quand tu vois ce truc-là, c'est le concert où t'as envie d'être, quoi. C'est le concert parfait, quoi.
Ultime, tellement, quoi.
Ultime. Et du coup, bah, tu demandes des jeunes de mimer une ambiance de concert rock. Au bout d'un moment, il y en a 2-3 qui décident que c'est l'heure de foutre le bordel, et puis c'est tout. Donc ça part en gros pogo, il y a des instruments qui volent partout, c'est le chaos total. Et c'est évidemment ces scènes spontanées-là qui ont été gardées au montage.
Alors, le clip sort le 27 août 1991, le single sort le 10 septembre, ça va très vite, l'album le 24, et dès la mi-octobre, la chaîne MTV se met à diffuser le clip quotidiennement à la télé.
Alors, MTV a eu un rôle primordial dans le succès de Nirvana. Pendant 9 semaines, ils matraquent le clip plusieurs fois par jour. Tous les projecteurs se braquent sur Nirvana et profitent à tous les autres, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Mudhoney. En un battement de cils, le grunge passe du statut de niche underground à courant majeur de la musique de l'époque. Et pourquoi c'est un événement important? Simplement parce que c'est la première fois qu'un groupe de la scène indépendante arrive au sommet des charts. C'est la première fois que la radio et la télé diffusent à grande échelle, entre guillemets, de la vraie musique et non des produits standardisés et habituels. Et voilà, je veux dire, les mecs vont détrôner...
Tu veux dire que Michael Jackson, c'est un produit standardisé, c'est ça? En train de dire.
Pour le détrôner de la première place des meilleures ventes, bah c'est quand même dingue, quoi.
C'est clair, c'est dingue.
Le clip de Smells Like Teen Spirit a eu un impact considérable. Tout à coup, Nirvana, c'est devenu la voix à travers laquelle toutes les frustrations d'une génération se matérialisent. Et bon, ce qui est marrant, c'est que la grogne flottait dans l'air depuis un moment. On marche encore quand même sur les braises fumantes du mouvement punk. Et si Nirvana a vendu 10 millions de disques, c'est qu'il y avait une audience énorme pour cette musique. Mais en fait, de la fin des années 70 et tout au long des années 80, la scène punk et la scène hardcore, qui étaient tentaculaires, sont restées complètement dans l'ombre. Nirvana, c'est les premiers à avoir accédé au spotlight avec ce style de musique pop-rock, on va dire, inspiré du punk. D'ailleurs, cette énergie, cette colère qu'on voit dans le clip, ça date pas non plus de 1991. À vrai dire, la principale source d'inspiration du clip, c'est un film de 1979 qui s'appelle Violence sur la ville. Dedans, il y a Matt Dillon, âgé de 15 ans, qui joue son tout premier rôle.
Ouais, c'est collector, ça.
Ça raconte l'histoire d'une bande d'adolescents qui décident de saccager leur petite ville de province.
Oui.
Ils retiennent les adultes en otage dans le lycée et profitent du manque de surveillance pour aller tout péter. J'ai vu l'abandonnement, ça a l'air trop bien.
mais c'est vrai que tu vois que finalement, le Kurt Cobain qui fait ça pour de vrai, tu vois, c'est pas non plus très original.
Alors, Kurt était surfan de ce film.
Un film où il y a des ados. Quoi.
Et son idée de base pour le clip d'ailleurs, c'était de filmer des lycéens qui vont enlever le proviseur avant de le faire brûler vif dans le gymnase. Hardcore. Bon, donc encore une fois, c'est comme avec l'histoire de la photo d'accouchement en couve de Nevermind. Il a fallu les camer les arbres.
Il a fallu le recadrer, le petit Kurt.
On peut pas tout montrer si on espère vendre quelques disques. Et le succès de la mouvance grunge va arriver jusqu'en France, bien sûr, où Nirvana a joué à plusieurs reprises dès 1989. Et pour finir en beauté, j'avais envie de partager avec vous un petit bijou. C'est une archive complètement what the fuck qui date de 1993. On est sur France 2 dans le JT présenté par Paul Amar qui lance un sujet dédié au grunge. C'est cadeau.
C'est Paul Amar.
C'est à Daniela Lombroso et Hervé Bozzo qui ont ri de mon ignorance. Mais c'est à la mode, m'ont-ils dit. La mode, Grunge.
Vous avez aimé les punks et les hippies, vous adorerez les grunge. C'est un mélange des deux, à la fois nos futurs et liberté absolue.
On refuse toute obligation, on baisse les bras, on vit dans le présent. Et comme le futur c'est la dèche et le chômage, on fera des petits boulots, alors ça sert à rien de travailler.
Qu'est-ce que tu feras pour vivre ?
Bah, des petits boulots, je sais pas, je conduirai un bus, je vendrai des glaces.
On refuse toutes les c'est obligations, génial. Surtout celle de se laver. Les ados adorent et c'est très pratique pour l'été. On ne repasse plus.
Alors voilà, non, c'est mais génial.
C'est j'imagine le proviseur qui entend
ce reportage, il est tellement drôle et accablant parce qu'en fait les meufs elles sont habillées en gothique avec des barésies trouées et juste ça fait ouais ben on va conduire des bus de toute façon on n'a pas fini.
Mais genre, conduire mais, des bus c'est vendre des glaces.
Ça n'a rien à voir avec le grunge, enfin bref c'est collector.
Ceci dit c'est pas trop si facile de conduire un bus ni de vendre des glaces, hein. C'est quand même un métier, hein. Ah, je vous ai séché là-dessus. Hein. Ah, là, il n'y a plus personne.
Bah, on l'a pas fait, donc on peut pas dire. Ouais, ouais, tu marques des points. Bon, bah, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est déjà la fin de cet épisode consacré.
Ouh, j'ai cru que t'allais me dire que Kurt Cobain s'était suicidé.
Oh, merde.
Non, on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit.
On n'a pas débattu. Est-ce que Kurt Cobain est la réincarnation du Christ ou pas?
Moi, je dis non.
Toi, tu dis non.
À ce sujet, si ça intéresse quelqu'un, il y a un excellent clip de Jessica 93 qui s'appelle Rip in Peace et qui est un montage très, très humoristique qui reprend des thèses complotistes comme quoi Kurt Cobain serait la réincarnation du Christ, et j'adore ce clip, j'adore Jessica 93 et allez le regarder, quoi.
Elle vient du 93 ou pas?
Quoi?
Elle vient du 93 ou c'est ça rien à voir?
Ouais, Jessica 93, ouais, t'inquiète.
Moi, je pense pas que ça soit la réincarnation du Christ, tout simplement parce que c'est un putain de lézard, c'est un reptilien. Je préfère vous le dire, c'est tout. Quoi.
Il est pas mort, moi, je crois surtout. Je crois qu'il est avec Elvis, il est sur son île.
Et Bob Marley.
Et il est en chacun de nous. Oh. Il est peut-être là ce soir, c'est toi qui nous écoute, Kurt.
C'est vrai, Kurt.
On te fait plein de gros bisous. Bon, bah voilà, donc j'ai vraiment une mauvaise nouvelle maintenant. C'est que c'est la fin de cet épisode consacré à Nevermind de Nirvana. On avait envie de partager avec vous notre avis sur ce disque culte de nos années 90 avec nos invités, avec Greg Cook,
yes.
Avec Grégoire Sauvage,
yes, merci Banu,
et Fanny Gignès.
Merci.
Voilà, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Youpi.
On va vous donner quelques indices bientôt sur les réseaux sociaux, alors nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, voilà, suivez-nous.
Partout. Et... s'il vous plaît.
Et chers auditeurs, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on fait ce podcast pour vous et un peu pour nous aussi.
Pour nous, ouais.
Dites-nous ce que vous en pensez, si Nirvana vous rappelle des souvenirs, les disques dont vous voulez qu'on parle. Alors, vous pouvez nous écrire en nous laissant un commentaire avec 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait super plaisir. Voilà, on se quitte avec Lithium, qui est un morceau que j'adore. Bye bye.
Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book of years, Sunday morning is every day for all I care. Candles in our days, cause I found God. Yeah.
so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke on me is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.